Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le peuple de Dieu attend des réponses concrètes et efficaces. Message du pape François à l'ouverture du sommet au Vatican sur les abus sexuels dans l'Église. C'est jusqu'à dimanche. Qu'en attendent les victimes de prêtres pédophiles? François Devaux, le fondateur de l'association La Parole Libérée, reçu hier au Vatican, est notre invité. La réponse du pouvoir au rapport accablant du Sénat sur l'affaire Benalla. Édouard Philippe, ce matin, dans la cour de Matignon.
La commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais comme j'ai un attachement très vif et très grand au principe de séparation des pouvoirs, j'en suis un peu déçu.
Nous entendrons le Premier ministre plus longuement. Le rapport d'experts qui va faire des mécontents. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
On parle des jours de carence, c'est-à-dire pas pris en charge par la Sécu en cas d'arrêt maladie. Quelle réforme envisager?
L'idée serait que tout le monde soit logé demain à la même enseigne, un jour non payé pour tous, privé comme public, au nom du principe d'égalité. Mais quelle égalité, se demandent les syndicats.
A tout à l'heure pour les précisions. Dans ce journal encore, alerte à l'utilisation des opioïdes, ces médicaments antidouleurs potentiellement très dangereux. Rien à voir avec les milliers de morts en Amérique, mais tout de même en France, le nombre d'hospitalisations et de décès a plus que doublé depuis l'an 2000. Inclure l'antisionisme dans la définition de l'antisémitisme, mais sans changer le code pénal, proposition d'Emmanuel Macron, difficile à comprendre, Sarah Guibaudot nous explique. Le surf, l'escalade, le breakdance, le skateboard, nouveau sport aux Jeux Olympiques, c'est la proposition de Paris 2024. Et puis la météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
De Météo France, quelle est la tendance aujourd'hui?
Bien, c'est une journée qui s'annonce ensoleillée, hein. Soleil déjà radieux sur la plupart des régions, mais le nord-ouest a eu beaucoup de grisailles matinales et ces nuages vont progressivement s'effacer, parfois tardivement, notamment près de la Manche. On aura aussi quelques bancs nuageux autour du golfe du Lion, mais ailleurs on gardera du soleil. Et puis les températures sont extrêmement douces, on ira de 11 degrés au Havre, mais au double à Biarritz, 22 degrés, avec 16 degrés pour Paris, Nancy, Marseille ou encore Besançon.
A tout à l'heure Sébastien, dans ce journal nous parlerons également du dernier livre de David Fuenquinos, lu Paris Lana Moriousef. Le 13h, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter.
On parle de milliers de victimes et on parle d'une institution censée transmettre un message d'amour, en particulier pour les plus faibles. L'Église va-t-elle vraiment, complètement mettre fin à l'omerta, la complaisance, l'impuissance à répondre à ces scandales des prêtres pédophiles? Ce matin à Rome, s'est ouvert un sommet inimaginable il y a quelques années encore. Les présidents des conférences épiscopales de 114 pays, autrement dit les représentants des évêques à travers le monde, sont réunis pour 3 jours de réflexion, de témoignages sur les abus sexuels au sein de l'Église. C'est le pape François qui a ouvert le sommet ce matin avec la promesse de résultats concrets.
Face au fléau des agressions sexuelles perpétrées par des hommes d'Église à l'encontre de mineurs, j'ai pensé vous interpeller afin que tous ensemble nous entendions le cri des petits qui demandent justice. Le peuple de Dieu nous regarde et n'attend pas de nous de simples condamnations, mais des mesures concrètes et efficaces. Il faut du concret.
Le pape François ce matin au Vatican, voix off, Nasser Madji. Bonjour François Devaux.
Bonjour.
Fondateur de l'association La Parole Libérée, association de victimes de prêtres pédophiles. Qu'attendez-vous de ce sommet, François Devaux?
Le pape l'a bien exprimé, du concret. Je crois qu'il faut qu'il commence par se l'appliquer à lui-même. C'est une structure très hiérarchisée. Et celui qui décide, c'est le pape.
Et le concret, ça veut dire quoi pour vous?
Le concret, c'est la tolérance zéro. En fait, on comprend pas bien ce à quoi ils vont réfléchir pendant 4 jours qui n'a pas été déjà dit. Il y a quand même des expertises. On a eu un rapport de l'ONU en 2014 qui a été envoyé au Vatican, qui a été décrédibilisé par le pape. On a une commission vaticane de protection des mineurs nommée par le pape qui a remis un rapport qu'il n'a même pas commenté. Il y a eu la promesse du pape nous disant qu'il allait mettre en place un tribunal pour juger les évêques négligents il y a déjà 2 ans et demi. Il y a eu les victimes, il y a eu les États qui ont enquêté, il y a eu les lois locales, il y a eu le droit canonique. Enfin, qu'est-ce qu'on attend de plus comme expertise pour prendre les décisions qui s'imposent? On va réfléchir à quoi? Ils vont réfléchir à quoi pendant ces 4 jours? On a du mal à comprendre qu'il y a un travail d'information à faire, c'est très bien. Mais les décisions concrètes, Qu'est-ce qu'on attend de plus pour les prendre?
Alors, qu'est-ce qu'on attend? Tiens, pour alimenter la réflexion, nous allons à Rome retrouver la correspondante de France Inter. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Vu de Rome, que peut-on attendre de ce sommet?
Bien écoutez, il reste des marges de progression, hein, c'est ce qu'on dit à Rome effectivement, parce que les instances sont débordées. Si on veut parler des évêques négligents qui doivent être en théorie révoqués, hein, c'est un texte du pape François qui remonte à 2016. Hein, ces évêques qui ont couvert des abus, la section spécialisée à la Congrégation pour la doctrine de la foi compte une petite vingtaine de professionnels et le Vatican est débordé sur ce sujet, d'où une proposition qui pourrait émerger lors du sommet de décentraliser cette justice au niveau national. Cette proposition pourrait être portée notamment par la conférence épiscopale française. Il y a également l'écoute, hein, c'est un point noir que relèvent les victimes bien souvent. La situation est très variable selon les pays. Alors pourquoi pas mettre en place des cellules d'écoute partout, un accompagnement des victimes. Rome pourrait aller dans ce sens, le suggérer, mais ce sera de toute façon à chaque conférence de mettre en place ces mesures. Se pose aussi la question de la formation. Aujourd'hui, un séminariste n'est pas systématiquement sensible à la question des abus. Les cursus de formation qui existent à Rome, notamment, pourraient être une bonne base de départ. L'Église a travaillé sur la lutte contre les abus et possède de très bons experts en la matière. Voilà, ce sont des pistes. Les évêques ont 3 jours pour débattre et in fine, c'est le pape qui tirera les conclusions dimanche.
Merci Mathilde pour ces précisions. Décentraliser, créer plus de cellules d'écoute, travailler davantage sur la formation, est-ce que là, ce sont de bonnes pistes selon vous, François Devaux?
C'est pour moi reculer les prises de décision qui s'imposent. On parle de la couverture des prêtres pédophiles. Voilà, en France, à Lyon, on a un cas qui est prouvé, qui est démontré, où l'auteur a reconnu qu'il avait effectivement déplacé en connaissance de cause plusieurs hommes qui s'avaient déviants sexuellement. Et voilà, qu'est-ce qu'on attend là pour prendre la décision? Cette tolérance zéro.
Là, la justice se prononce, va se prononcer en France.
Je ne parle pas de justice. Là, je parle de conception morale de l'Église catholique qui prône des valeurs de tolérance zéro. Tolérance zéro, quelle est la définition de la tolérance zéro?
La bonne attitude, selon vous, c'est ce qui a été fait avec celui de Brooklyn, voilà, qui a été défroqué directement.
Alors pourquoi Mgr McCarrick a été retiré? Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Vigano, qui est un éminent responsable de l'institution catholique aux États-Unis, qui a, pour des raisons et des motivations qui sont certainement à interroger, pour autant ce qu'il a dit est vrai, il a créé un scandale, et quelques mois après, 2 ou 3 mois après, le pape prend la décision de le limoger. Ça a été exactement la même chose au Chili, et c'est que le scandale qui amène à la décision. Donc voilà, les décisions, elles sont pas compliquées à prendre, voilà, il suffit juste qu'il y ait un homme, et en l'occurrence le pape, qui les prenne. Et il le fait pas. Donc hier, à cette réunion à Rome, à laquelle on a participé, oui, le pape n'était pas là. Comment interpréter cette absence alors qu'il crée cette réunion mondiale, sinon pour ne pas répondre aux questions qu'on lui pose? Il ne répond pas à l'ONU? L'ONU, c'est quand même...
Pour l'instant, en concret, vous ne le voyez pas, c'est ça que vous nous dites, François Devaux. On verra ce qui ressort dimanche de ce sommet. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions de France Inter. Et donc ce sommet à Rome, c'est jusqu'à dimanche, suivi par Mathilde Imberti pour France Inter.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Et combien de temps faudra-t-il pour avoir des explications claires à ces questions? Pourquoi, dans des zones géographiques proches, à des moments proches, des bébés sont-ils nés avec une ou des malformations au bras? Dans l'Ain, à Guidel dans le Morbihan, en Loire-Atlantique. 2 comités sont créés, c'est la nouveauté de la semaine. Comité scientifique, un autre de suivi et de dialogue avec les familles. Répertorier, ce mot est important parce qu'il y a des familles qui vivent un drame similaire mais ne sont pas répertoriées. Et pourtant, Adrien Toffolet, vous avez par exemple rencontré Aurélie, c'est la maman de Lola. Elle est née avec une malformation de la main droite en 2011, elle habite Calan, c'est juste à côté de Guidel dans le Morbihan, mais pas à Guidel. Et pour cette raison, son cas n'a pas été retenu par les autorités sanitaires.
Un gros chien monte la garde devant le pavillon.
Vous êtes sans les enfants?
Ouais, sans les enfants et sans le mari.
Rare moment de calme et de repos pour Aurélie, à l'esprit toujours sa fille Lola, qui ne fait pas partie du cluster de Guidel, une véritable injustice pour elle.
Ah bah, on a l'impression d'être complètement mis à l'écart.
mis à l'écart de tout ce qui se passe.
Pourtant, en novembre dernier, elle s'était faite remarquer à la réunion publique organisée par le maire de Guidel avec Santé publique France. De nombreuses familles de toute la région avaient fait le déplacement pour tenter de faire la lumière sur ces cas de malformations inexpliquées.
Ça a été un coup de colère. Il parlait uniquement des 4 enfants de Guidel, mais uniquement, comme si les autres n'existaient pas. Je me suis dit, mais on peut pas laisser passer. Elles sont pas que 4. J'en ai beaucoup plus. Nous, on est là. Mon enfant, il est 5 jours après un des enfants de Guidel. J'habite à 19 km de Guidel et moi, j'ai pas été pris en charge.
Depuis cette réunion, après de multiples demandes, l'agence sanitaire est finalement revenue vers Aurélie afin de répondre au même questionnaire d'enquête que les familles de Guidel, par téléphone uniquement. Et la conclusion de l'épidémiologiste a été rapide.
Il n'y a rien que vous avez fait au même moment, en même temps, pris les mêmes médicaments ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui vous relie.
Sauf
le lieu, l'environnement, quoi. Mais bon, ça, il ne s'est pas tardé là-dessus.
Pour elle, comme pour d'autres familles concernées et laissées de côté, il manque une enquête de terrain avec prélèvement pour justement écarter ou non la piste environnementale.
La seule solution, ce serait qu'on passe au pénal pour qu'il puisse y avoir une enquête judiciaire derrière et qu'il y ait des prélèvements de terrain. Que voilà. Maintenant qu'on pourrait plus dire, ah ben non, vous n'êtes pas le dossier prioritaire. Non, là, il y a une enquête qui est derrière et là, ils vont aller jusqu'au bout de l'enquête. C'est dommage, mais on va devoir en arriver là, quoi.
Elle n'a pas pu faire partie du comité de suivi qui se réunit cet après-midi, mais espère que cela débouchera sur une meilleure reconnaissance de la part des autorités.
Un reportage Adrien Toffolet. Nous avons commencé ce journal hier avec ce sujet, la charge contre l'Élysée de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla. Série de dysfonctionnements, disent les sénateurs. Chaîne d'irresponsabilité, sécurité du président mise en danger et trois hauts responsables de l'Élysée mis en cause par les sénateurs, dont le secrétaire général Alexis Kohler, soupçonné de ne pas avoir dit toute la vérité lors de son audition sous serment. Le Sénat est à majorité de droite, ça ne vous a pas échappé. Alors depuis hier, l'Élysée, le gouvernement, les élus En Marche entonnent le refrain de sénateurs qui seraient de parti pris. C'est encore ce qu'a fait Édouard Philippe ce matin lors d'une curieuse intervention plus ou moins spontanée dans la cour de Matignon.
La commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais comme j'ai un attachement très vif et très grand au principe de séparation des pouvoirs, j'en suis un peu déçu. J'observe également qu'un certain nombre de recommandations concernent des fonctionnaires qui travaillent auprès du président de la République, et notamment le secrétaire général de l'Élysée. J'ai trouvé ces recommandations ou ces formulations incompréhensibles et souvent injustes, car je peux témoigner de ce que le secrétaire général de l'Élysée, notamment, est un grand serviteur de l'État. C'est la raison pour laquelle je ne saisis pas très bien la portée de ces remarques. Dans ces temps compliqués, il appartient que chacun respecte les prérogatives qui lui sont réservées par la Constitution.
Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
En direct de l'Élysée, voilà pour les propos du Premier ministre. Les sénateurs font aussi des recommandations pour que les dysfonctionnements ne se reproduisent pas à l'Élysée, plus de contrôle sur les passeports diplomatiques entre autres. Est-ce que les recommandations vont être suivies à l'Élysée ?
Alors, 3 passeports, selon l'Élysée, ont été retirés à des collaborateurs de la présidence. Donc oui, Bruno, des passeports jugés inutiles dans l'exercice de leur mission. On ne connaît pas les noms des personnes concernées par ce retrait, mais sur les 800 collaborateurs du palais, 33 disposent aujourd'hui d'un passeport diplomatique. La règle se veut désormais très claire pour obtenir ce précieux sésame. Le collaborateur doit être amené de manière régulière à effectuer des missions de reconnaissance ou des voyages officiels. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de règles clairement établies. On l'a vu avec le précédent devenu célèbre, Alexandre Benalla, qui ne cesse de faire des vagues. Le réquisitoire sévère du Sénat va laisser des traces, obligeant même Édouard Philippe, on l'a entendu, à monter au front comme une partie de son gouvernement. Le Premier ministre a fait part de son étonnement en remettant en cause le respect par la commission d'enquête du Sénat de la séparation des pouvoirs. Quand l'exécutif s'étonne du législatif. Publiquement, l'Élysée n'a pas réagi, commentant en coulisses et critiquant Philippe Bas qui jette en pâture des noms de hauts fonctionnaires de la République. Alexis Kohler, Patrick Strauda sont affaiblis, mais derrière eux, c'est Emmanuel Macron et sa présidence qui sont visés. Toute l'architecture que le président a mise en place est remise en cause.
Cyril Graziani en direct de l'Élysée avec Marc Garvenès. Pour le président de la République, une des questions clés de la semaine, c'est la suivante. Comment lutter contre l'antisémitisme ? Il a voulu établir de nouvelles lignes rouges hier soir dans son discours devant le CRIF. Rouges, mais peut-être pas toutes très claires, ces lignes. En tout cas, quelques heures après, c'est le sentiment qu'on a. Bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
C'est le cas en particulier de la nouvelle définition de l'antisémitisme qu'Emmanuel Macron veut établir. élargir à l'antisionisme. Nouvelle définition, mais on ne modifie pas le code pénal. Comment interpréter ces propos, Sarah ?
Alors, cette nouvelle définition a été proposée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste face à la résurgence des actes antisémites dans de nombreux pays. Elle fait référence à la haine des Juifs, jusque-là pas de problème. Elle est suivie d'exemples dont certains sont contestés. Elle affirme par exemple que l'antisémitisme peut inclure le ciblage de l'État d'Israël. La frontière avec le droit de critiquer la politique israélienne peut être assez floue. Cette définition, en tout cas, est plus un outil intellectuel. Le Parlement européen l'a adoptée en 2017 dans une résolution sans valeur contraignante. Les magistrats et spécialistes que j'ai consultés estiment en tout cas que l'arsenal judiciaire français est suffisant. Il permet déjà de sanctionner des actes qui, sous un vernis antisioniste, masquent une haine des Juifs. C'est l'intention qui compte. Le sale sioniste adressé à Alain Finkielkraut aurait toutes les chances d'être sanctionné. Autre exemple, la Cour de cassation a déjà condamné des appels au boycott des produits d'Israël. Dans plusieurs cas, elle a estimé qu'ils cachaient bien une provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers des personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, en l'occurrence. Ça, c'est le code pénal.
Merci Sarah Guibaudot. En France, rappelons ce chiffre impressionnant donné récemment par le ministère de l'Intérieur. Actes antisémites en hausse de 74%. Alors cela correspond aussi à une hausse du nombre de signalements en ligne notamment, mais demeure ce chiffre. Qu'en est-il chez nos voisins ? Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Comment ça se passe ailleurs en Europe ? Votre chronique chaque jeudi dans ce journal de 13h. L'antisémitisme chez nos voisins, est-ce que la France est une exception ?
Non, la France n'est pas une exception. Selon le dernier rapport du baromètre européen, cette vague antisémite, elle touche d'une manière ou d'une autre la plupart des pays voisins. La moitié des Européens jugent que l'antisémitisme est un problème sérieux dans leur pays. Et les plus inquiets sont les Suédois, les Français et les Allemands.
Alors là, on parle de sentiments, d'impressions dans les faits. Qu'en est-il ?
Difficile de comparer les actes antisémites car leur définition varie selon les pays. Malgré tout, l'ONG juive britannique CST compte en 2018 une augmentation de 16% de ses actes au Royaume-Uni, le deuxième pays pour la communauté juive d'Europe après la France. Il y a également une hausse de 10% en Allemagne, mais on reste bien loin derrière la France, plus 74% l'an passé. En Hongrie, les stéréotypes à l'égard des juifs sont particulièrement vivaces. 42% des Hongrois estiment que les Juifs ont trop d'influence dans la finance et les affaires du monde. Un record parmi les pays sondés.
Alors, y a-t-il une résurgence de l'antisémitisme en Europe ? Ce qu'on peut dire, Delphine, c'est qu'il y a de plus en plus d'inquiétudes à ce propos.
Oui, il y a un début de prise de conscience en France. 72% considèrent que l'antisémitisme est un problème sérieux, voire très sérieux, mais à peine 6% des Estoniens et 10% des Portugais. Les signaux d'alarme, malgré tout, se multiplient. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne vient de publier la plus grande étude dans le monde sur le sujet. 16 000 personnes interrogées dans les 12 pays européens où les Juifs vivent depuis des siècles. Alors 70 ans après l'Holocauste, cette agence parle d'une déferlante antisémite qui menace les communautés juives, mais aussi les valeurs des droits fondamentaux sur lesquels l'Union européenne s'est bâtie.
Comment lutter contre l'antisémitisme ? Est-ce que des solutions émergent chez nos voisins ? On pense à l'éducation, évidemment.
Oui, et d'abord en France, l'un des rares pays avec l'Allemagne qui a fait de l'histoire de l'Holocauste un enseignement obligatoire à l'école, même si de l'aveu même de certains enseignants d'histoire, une ou deux heures consacrées à cette question ne permettront jamais de comprendre la spécificité de la Shoah. D'autant que l'essentiel des propos antisémites se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En attendant, les Juifs européens sont particulièrement inquiets. 9 sur 10 constatent une hausse des actes de harcèlement. Un tiers a même envisagé d'émigrer.
Comment ça se passe ailleurs en Europe ? La chronique de Delphine Simon chaque jeudi dans ce journal de 13h. Voilà de quoi faire beaucoup de mécontents avec une seule petite proposition. On parle des jours de carence en cas d'arrêt maladie. Un jour de carence, autrement dit pas pris en charge par la sécurité sociale, c'est obligatoire dans la fonction publique. C'est 3 jours de carence théoriquement dans le privé, mais souvent, via des accords de branche, l'entreprise les prend en charge. Comment enrayer la hausse des arrêts maladie ? Un rapport a été remis hier au gouvernement et Maxime Delves, il suggère donc que dans le privé, un jour de carence au moins soit incontournable.
Ouais, trop inéquitable, beaucoup trop confus. Le système qui permet aujourd'hui d'indemniser fonctionnaires et salariés a besoin de simplification, selon les experts du rapport. Aujourd'hui, dans le public, ce jour de carence, vous l'avez dit, autrement dit, ce jour non payé existe déjà. Alors vous me direz, Dans le privé aussi, théoriquement, les salariés ne sont pas rémunérés les trois premiers jours. Seulement, les entreprises compensent la plupart du temps les pertes de salaire via notamment des accords de branche, des complémentaires santé. L'idée serait donc que tout le monde soit logé demain à la même enseigne, un jour non payé pour tous, au nom du principe d'égalité. Mais quelle égalité, se demande Jocelyne Cabanal. Elle est secrétaire nationale en charge de la protection sociale à la CFDT.
C'est un peu idéologique, hein. C'est l'impression finalement qu'on est en train de positionner la journée de carence comme une sanction vis-à-vis des salariés, avec en plus l'impact de comment on va traiter les salariés qui ont des maladies chroniques. On arrive à des effets pervers, hein, tels que ça s'était produit quand on a remis en 8 jours de carence. Hein.
Alors étendre l'idée de ce jour non payé au-delà de la fonction publique, bonne idée ou pas, les syndicats, vous venez de l'entendre, sont sceptiques. Si les pouvoirs publics espèrent des économies avec un tel procédé, elles seraient très faibles, ces économies, estime la CFDT, qui préconise plutôt de travailler sur la prévention et les causes des arrêts maladie.
L'actualité de l'économiste, encore ce chiffre donné ce matin par la ministre du Travail. Le nombre d'apprentis est en hausse en France. C'est un dossier auquel beaucoup de gouvernements ont essayé de s'atteler. Nombre d'apprentis augmenté de 7,7% entre 2017 et l'année dernière. D'autres chiffres dans le domaine de la santé cette fois-ci et des chiffres effarants. Ils datent de l'année 2016. Plus de 17 000 morts aux États-Unis à cause des opioïdes, ces médicaments antidouleurs à base d'opium. Mauvaise prescription, mauvaise utilisation. Un reportage d'Envoyé spécial en Amérique montre ces ravages ce soir sur France 2. Qu'en est-il en France? On est loin de cette situation. Mais Daniel Messager, l'agence du médicament, vient de donner des chiffres et de lancer l'alerte. Depuis l'an 2000, le nombre d'hospitalisations à cause des opioïdes a augmenté de 167%, le nombre de décès de 146%. Et pourtant, ces médicaments sont aussi précieux.
Pourquoi ces médicaments sont-ils si recherchés? C'est parce qu'ils sont efficaces. Ils soulagent rapidement des douleurs sévères. C'est l'opium qui procure ce soulagement. Ces médicaments sont classés en opioïdes faibles, comme le tramadol, le lamaline, d'autres forts, comme le fentanyl ou l'oxycodone. Et c'est parce qu'ils sont efficaces que les prescriptions augmentent, multipliées par 2,5 entre 2006 et 2017. La consommation de tramadol a grimpé, par exemple, de 68%, aussi parce qu'un autre médicament, le diantalvic, avait été interdit. Il y a encore une quinzaine d'années, la douleur était mal prise en charge en France. C'est la prise de conscience de cette souffrance non soulagée qui a entraîné des prescriptions plus importantes, mais avec parfois des surdoses, des mauvais usages. Il y a environ 4 décès par semaine en France et 2600 hospitalisations par an liées à une surconsommation ou à un effet secondaire, car ils peuvent aussi entraîner des détresses respiratoires. En France, les prescriptions sont encadrées, en tout cas pour les opioïdes forts qui ne sont délivrés que sur ordonnance sécurisée. La prescription de ces opioïdes doit être limitée dans le temps pour éviter les addictions.
Un incendie dans un immeuble d'Aulnay-sous-Bois en banlieue parisienne. Une personne âgée est morte. 2 pompiers ont été grièvement blessés. Le feu qui s'est déclenché en tout début de matinée était maîtrisé en fin de matinée. Nous vous en parlions déjà il y a quelques jours. Grâce à Fabrice Rigobert sur France Inter, les organisateurs des JO à Paris en 2024 veulent inscrire 4 sports supplémentaires au programme. Ils auront le statut de sport invité. Escalade, surf, skateboard et breakdance. Les 3 premiers sont déjà invités à Tokyo en 2020. Pour le 4e, ce serait une totale nouveauté. Pourquoi ces sports-là? Réponse de Tony Estanguet, président de Paris 2024.
De casser les codes et de proposer une vraie évolution. Voir une révolution, de voir comment est-ce que parmi les 28 sports qui sont déjà au programme, on va nous chercher des sports qui racontent une autre histoire, de connecter la jeunesse, parce qu'on est allé choisir des sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux, qui cartonnent auprès des jeunes, parce que voilà, ils se pratiquent facilement, ils se pratiquent en milieu urbain, ils se pratiquent en dehors des stades. Ce sont des sports où la créativité est vraiment au cœur de l'ADN de la pratique, de la performance, et qu'on nous dise pas l'année prochaine, ah ben non, finalement, on n'a pas trouvé la place pour intégrer ces 4 sports. Donc tout a été pensé pour réduire au maximum le nombre d'athlètes. Donc par exemple, on a divisé par 2 le nombre d'athlètes supplémentaires nécessaires pour rajouter ces sports additionnels par rapport au programme des Jeux de Tokyo. On a besoin de ces 4 sports pour vraiment que ces Jeux cartonnent et que ces Jeux marquent l'histoire.
C'est le Comité international olympique qui tranchera dans quelques mois. Un nouveau sponsor maillot pour le PSG et le groupe Accor va remplacer Emirates sur la poitrine d'Mbappé et tous les autres. La saison prochaine, l'inscription qui apparaîtra, c'est All, un programme de fidélité du groupe Accor. Le PSG avait besoin de faire rentrer de l'argent pour respecter les règles du fair play financier. C'est l'un des auteurs français les plus populaires. David Fuenquinos publie un nouveau livre, Deux sœurs, c'est le titre. Deux sœurs et deux fils rouges, Ilana Mor-Youssef, la relation ambivalente entre ses sœurs qui s'appellent Mathilde et Agathe et la dévastation amoureuse.
Y a-t-il une façon élégante de quitter quelqu'un ? Peut-on imaginer une rupture en douceur qui ne ferait de mal à personne ? Visiblement non. Et Mathilde, jeune professeure de français, en fait la douloureuse expérience. Douloureuse, le mot est faible. David Fuenquinos.
Toute la première partie repose sur cette dévastation amoureuse de cette jeune femme qui est quittée par son conjoint. Elle perd totalement pied. Je me suis rendu compte que c'est vraiment un terme récurrent dans tous mes livres, que ce soit dans La Délicatesse ou Charlotte. Il y a toujours un moment, un point de rupture et la nécessité de vivre une seconde vie. Sûrement parce que c'est très personnel. J'étais très gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai connu la mort et je suis revenu d'une certaine manière à la vie.
Le retour à la vie de Mathilde s'effectue en s'installant chez sa sœur. Sont-elles proches ? Pas spécialement, mais elles veulent bien faire. Et très vite, les bons sentiments deviennent le paravent d'une rivalité qui les conduira beaucoup trop loin.
Ce qui m'intéressait, c'était de me dire, d'une manière très très simple, Mathilde, qui a tout perdu, se retrouve à vivre chez sa sœur Agathe, qui a exactement la vie qu'elle aurait dû avoir. Agathe, sa sœur, vient d'avoir un enfant, vit dans le bonheur avec son mari. Et il y a quelque chose d'encore plus violent finalement à être confronté à ce qu'on n'a plus.
Deux sœurs mettent en scène un petit théâtre de la perversité, ni remords, ni regrets. Fuenquinos lui-même n'en revient pas.
Et Deux sœurs, c'est édité chez Gallimard. L'actualité des écrivains, c'est aussi la réception cet après-midi de Patrick Grainville à l'Académie française. Il prend le fauteuil d'Alain Decaux. C'est Dominique Bonnat qui prononcera son éloge. Dominique Bonnat qui, au sein d'une commission avec Daniel Salnave à l'Académie, pourrait faire évoluer la dite Académie. Rapport attendu dans les jours à venir sur la féminisation des titres et des noms de métier. L'actualité de la culture encore et la mort du cinéaste suisse Claude Goretta, réalisateur notamment de La Dentelière avec Isabelle Huppert. Claude Goretta décédé à l'âge de 89 ans. La météo dans une seconde. D'abord, ce mot alerte à la pollution en Ile-de-France, dans le bassin lyonnais ou les Bouches-du-Rhône. Pollution aux particules fines ce jeudi.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Sébastien Léas.
Du soleil et encore du soleil pour cet après-midi qui brille sans partage sur la majeure partie du pays et va garder sa domination jusqu'à ce soir. Le soleil va même gagner du terrain vers le nord-ouest, balayant progressivement les grisailles qui tardent à disparaître. Quelques bancs nuageux bordent tout de même le littoral entre la baie de Seine et le Boulonnais, ainsi qu'autour du golfe du Lion. Des débordements nuageux peuvent aussi toucher le delta du Rhône cet après-midi. En Corse, la zone côtière profite du soleil, mais les pentes des hauteurs voient le ciel devenir de plus en plus nuageux. Ce temps ensoleillé s'accompagne d'une grande douceur cet après-midi. On attend 13 degrés à Caen, 15 degrés à Brest, Metz, Lille et Nice, 16 degrés pour Paris, Dijon, Perpignan et Marseille et 18 degrés à Lyon et à Bourges. C'est sur un large quart sud-ouest qu'il fait le plus doux avec 19 degrés à Toulouse, Cognac et Clermont-Ferrand, 20 degrés à Tarbes et jusqu'à 22 degrés à Biarritz. En revanche, nous restons en février et la nuit prochaine verra le mercure descendre assez bas avec même quelques gelées possibles.